Alors merci, bonsoir. Merci de me permettre de partager ma passion, puisque j'ai beau aller aussi loin que je veux dans ma mémoire, j'ai toujours des souvenirs qui tournent autour des idées. Je me souviens avec mon papa, discuter, essayer de comprendre pourquoi des gens avaient des idées, pourquoi d'autres n'en avaient pas, comment on peut faire pour en avoir des meilleures, pourquoi il y en a qui naissent, il y en a qui meurent, il y en a qui durent. Et donc, cette passion, j'ai beaucoup de chance à la transformer en métier quand j'avais environ 40 ans. Donc j'ai eu une première partie de vie plutôt, disons, plus classique. J'ai fait de l'informatique dans une banque, ce qui est... J'aimais bien, puis je suis devenu banquier, j'aimais bien, mais c'était pas vraiment moi. J'étais pas du tout malheureux, ça m'intéressait, mais je sentais bien qu'en moi, bon, il y a quelque chose d'autre qui bouillonnait. Et je crois qu'à 40 ans, on appelle ça la crise de la mi-vie. J'ai un peu regardé les livres de psychologie. Et donc, j'ai dû probablement passer par là. Et ce qui s'est passé, c'est que cette passion que j'avais depuis toujours, et que j'avais fait un peu en amateur quand j'étais dans la finance, j'ai décidé d'en faire un métier. Et c'est un choc parce que, c'est un métier qui est plus difficile à pratiquer. C'est un métier où on ne peut rien vendre. On ne peut pas aller chez quelqu'un en disant, voilà, vous devez me recevoir, je vais vous donner un truc, vous allez voir, c'est génial, vous allez être ravis, puisque là, on n'a rien à vendre. On fait réfléchir les gens, et je vais venir sur le contenu du livre tout de suite. Et donc, je me suis dit, je vais faire de la créativité mon métier. J'avais été encouragé par certains amis, donc à qui je suis éternellement reconnaissant. Et je me suis jeté à l'eau, bon, je dirais, pas beaucoup de mérite, parce que, bon, à l'époque, c'était il y a 20 ans, c'était pas comme aujourd'hui, c'était pas très difficile de trouver des boulots. J'avais commencé, j'ai eu un contrat chez IBM, etc. Je dirais qu'aujourd'hui, je sais pas, mais bon, bref. Et puis, je me suis lancé là-dedans, j'ai commencé à écrire mes premiers livres, j'ai fait mes premières conférences, et je me souviens d'une anecdote, c'était chez Essilor en, bon, je crois en 92-93, j'étais devant un grand parterre de participants, c'était la réunion des cadres d'Essilor, les fabricants de lunettes, et ça se passe bien, puis vient question, temps des questions, et le tout grand patron lève sa main et dit, monsieur Marmander, c'est bien ce que vous faites, mais je vous trouve un peu trop platonique dans votre approche de la lentille de contact. Alors, à l'époque, je ne savais pas qui était Platon. Rien. On en parlait il y a 2 secondes. Je ne savais rien. Et j'ai eu un choc parce que je me suis dit, oh là là, si on veut faire de son métier la pratique des idées, peut-être qu'il faut remonter à la base. Et je ne savais même pas qu'il était la base. Donc j'étais vraiment, comme disent mes enfants, c'est gravos. Bon. Et je me suis dit, bon, tant qu'à faire, si je veux en faire mon métier, et si je veux le faire bien, et je crois que d'ailleurs, de toute façon, ce métier-là, on n'a pas le choix. Si on ne le fait pas bien, on ne le fait pas. Il n'y a pas de demande. L'exigence est assez grande. Et donc, je me suis dit, je vais retourner à l'école. Et en fait, je n'avais pas compris, à l'époque, le manque que représente, pour un Belge, le fait de ne pas faire de philosophie dans le secondaire. Évidemment, a priori, je ne pouvais pas me rendre compte du manque. Je ne savais même pas que ça existait. Mais maintenant que 20 ans se sont écoulés, je me rends compte à quel point c'est un manque et une erreur en Belgique de ne pas faire de philosophie dans l'enseignement secondaire. Je travaille beaucoup en France. Bien sûr, j'ai pas mal de contacts. J'ai pu m'inspirer aussi de là. J'ai lu tous ces petits livres qu'on fait soi-disant au baccalauréat. Moi, j'avais besoin de 15 jours pour un petit livre à 6 euros. Donc, oh là là, quel manque. Et d'ailleurs, pour dire directement mon rêve ultime, c'est tous mes livres, dans 3, 4, 5 ou 6 ans, tous les transformer en livres scolaires. J'arrive un peu au bout de ma vie de consultant, et je n'ai qu'une envie, et je l'ai toujours dit, c'est d'être enseignant. Et donc, j'avais un professeur, Nicolas Rouche, il y a longtemps, il m'avait dit que son rêve était de donner un cours à l'université, un cours dans le secondaire et un cours dans le primaire, pour pouvoir faire le cours. Et à l'époque, je trouvais ça un peu bizarre, mais en fait, je trouvais que c'était très très fort. Et bon, moi j'ai envie de devenir enseignant, et je sens bien que c'est ce qui va se passer, et que tout deviendra livre scolaire, en mettant des exercices, etc. Bon voilà, en quelques mots ma vie. J'ai commencé avec mon papa, je termine avec dans 10 ans, donc c'est vraiment le parcours complet. Maintenant sur le fond, Sur le fond, moi j'ai animé beaucoup de sessions en amateur de créativité, ce qu'on appelle des brainstorming. J'en ai animé avant même la crise de la mi-vie, quand j'étais encore dans la banque, et ça se passait plutôt bien. Ça se passait plutôt bien, et j'étais content, les gens étaient contents, et on me redemandait. Mais un jour, j'ai voulu savoir, mais au fond, pourquoi ça se passe bien ? Avant cela, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'avant même de savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? Je voyais des gens satisfaits à la fin, mais je n'avais pas plus de réponses que quand j'étais petit. Pourquoi une idée est née ? Et donc, ça fait partie de la démarche. Je me suis dit, si je veux vraiment pouvoir faire un métier de cela, je dois comprendre pourquoi et comment ça marche. Et donc, je reviens à Platon, je me suis dit, on va revenir au début. Je suis retourné à l'université quand j'avais 44 ans, j'en suis sorti à 53. Ce fut un peu long, mais j'avais demandé un rythme lent pour permettre de continuer à travailler. Et peut-être qu'après 20 ans, donc si je dis que l'idée de faire ce métier m'est venue il y a 40 ans, aujourd'hui, je crois que j'ai compris ce qui se passe. Peut-être trop tard puisque je ne le pratique plus, mais ça, ou beaucoup moins. Mais c'est tout de même intéressant. C'est tout de même intéressant. Et partager avec vous ce bouquin-ci qui est mon tout dernier, et peut-être bien le dernier, parce qu'il y a quelque chose en moi qui a envie d'arrêter d'écrire, c'est finalement, qu'est-ce que c'est la créativité ? Qu'est-ce que c'est une idée ? Bon, pourquoi, etc. Et je reviens à des questions de tout à l'heure. Et je vis des choses assez étonnantes, parce que moi j'ai cru pendant très longtemps que la créativité, ou un brainstorming, est une réunion dans laquelle, à un moment donné, une idée naît, nouvelle. Eh bien, je me rends compte, quand je regarde derrière moi, que ce n'est pas vrai. J'ai dû animer 1000, 1500 sessions, je ne sais pas. J'ai très peu de souvenirs d'une idée née dans un brainstorming. Peut-être un ou deux. En fait, qu'est-ce qu'un brainstorming réussi ? Ce n'est pas une réunion où un concept naît, c'est autre chose. Parce que finalement, les idées sont là. On va revenir à Platon. Je crois que les idées sont là. On a tous, tout le temps, des tas d'idées sur des tas de sujets. Tout le temps, tout le temps. Quel que soit le problème. Et donc, la probabilité est toute faible qu'un jour, vraiment, une idée toute nouvelle surgisse au milieu d'une réunion. La probabilité est beaucoup plus grande, j'ai toujours un fond de mathématiques en moi, qu'un brainstorming, et c'est ça, je crois, ce qui se passe, réussit tout à coup, donne du sens à une idée existante. Une idée qui était là, qu'un jour quelqu'un avait dit. Avant, il y a longtemps, ailleurs, un jour quelqu'un l'a dit. Et tout à coup, dans la réunion, ce qui se passe, un participant dit, mais au fond, ce qu'un tel ou ce qu'une telle a dit il y a 2, il y a 3 ans, c'est pas si idiot que ça, son truc. Et je crois qu'un brainstorming réussi, c'est ça. Et c'est un peu la thèse du petit livre bleu qui est ici. Les idées sont là. Et ce qui nous manque, c'est pas de la créativité. Je le répète, je crois que nous avons tous des tas d'idées sur tous les sujets, tout le temps. Là, ce qui manque, c'est quelque chose, et je voudrais mettre des mots sur ce quelque chose, qui permet tout à coup, dans une réunion, à laisser passer une idée. Il y a des tas d'exemples. Bon, par exemple, l'iPod. Vous connaissez l'iPod pour la musique. Bon. Très très bien, on peut dire bravo, Apple. Et on pourrait essayer de comprendre pourquoi et comment Apple a construit l'iPod. Mais je crois qu'on apprendra beaucoup plus en essayant de comprendre comment Sony a fait pour ne pas le faire. Parce qu'à 20 ans, Sony avait construit un truc qui s'appelait le Walkman, qui est une boîte qu'on met à la ceinture avec deux fils qu'on met dans les oreilles, et c'était pour faire de la musique. Le Walkman est exactement l'iPod avec la technique d'il y a 20 ans. Il faut être très 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 fort chez Sony pour ne pas faire l'iPod. Parce que l'idée est là. Elle était là. Non, elle est là depuis longtemps. En plus, ils ont des brevets. Ils possèdent le truc. Ils se sont fait un nom. Le Walkman, c'était Sony. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez. Comment ça se fait ? Et un brainstorming n'aurait rien changé. L'idée était là. À quoi ça sert ? Donc, qu'est-ce qui manque ? Quelque chose, et j'y reviendrai. Et les exemples comme ça sont très, très nombreux. Par exemple, l'iPhone. Bon, évidemment, on va taper sur le même clou. Comment se fait-il que ce ne soit pas sorti de chez Nokia ? Plusieurs milliards d'euros de recherche et développement chaque année. Et ils se font avoir par une petite entreprise canadienne qui s'appelle RMI ou RIM, je ne sais plus. Comment c'est possible? Ça veut dire que l'argent en matière de créativité, ce n'est pas tellement utile. Et à nouveau, un brainstorming, je crois, n'aurait rien changé du tout. Qu'est-ce qui manque? Quelque chose. Troisième exemple, qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'étais dans un avion avec un représentant d'une grande société de cartes de crédit dont je ne dirai pas le nom. Et il me dit à un moment, c'est quand même trop bête que nous n'ayons pas lancé nous-mêmes PayPal. Je ne sais pas si vous voyez PayPal, c'est le système de paiement par Internet. Et moi je lui dis, oui ça c'est vraiment trop bête, surtout que ça vaut une fortune, ça vaut 1,5 milliard de dollars. Et comme s'il ne souffrait pas encore assez, il a rajouté, c'est d'autant plus bête qu'on avait un projet exactement comme PayPal. Alors je lui dis, ça c'est d'autant plus bête, 1,5 milliard de dollars, donc ça fait quand même mal. Et en fait les exemples, il y en a autant qu'on veut. Vous prenez les 30 plus gros d'Internet, pour dire quelque chose, Amazon, eBay, YouTube, etc. Pas un seul, et ils valent tous 1 ou 2 milliards de dollars, tous, même parfois plus. Pas un seul n'est né dans une grande entreprise. Comment c'est possible? Avec autant de milliards de recherche, développement, de milliers d'ingénieurs avec des millions d'expériences, comment se font-ils avoir? Eh bien, c'est parce qu'il manque quelque chose. Dernier exemple, pour montrer que c'est même pas d'aujourd'hui. Je suis tombé sur un article sur General Motors, donc le fabricant de voitures. Il y a 100 ans, au moment où ils lançaient les premières voitures autour de Chicago, donc c'était la région des Grands Lacs, c'est là qu'ils étaient installés, Détroit, et les clients étaient beaucoup, à l'époque, des agriculteurs. Et quelqu'un qui a fait une étude sur le sujet, vous me direz, il y en a qui ont du temps. Bon, il apparaît que beaucoup de ces clients, donc des agriculteurs, à l'époque, ce qu'ils faisaient quand ils recevaient leur voiture, c'est enlever la banquette arrière. Pourquoi? Parce que quand on est agriculteur, on a besoin de beaucoup de place pour transporter du matériel et pas tellement des passagers. Apparemment, il a fallu 16 ou 17 ans à General Motors pour lancer le pick-up, qui est la voiture avec une banquette. Bon, c'est un peu dommage. Et à nouveau, c'est pas un brainstorming qui aurait changé quelque chose, puisque l'idée était là. L'idée était là. Et voilà, je pourrais encore donner la liste, une longue liste d'exemples, mais ce que je voudrais faire passer comme message, et c'est le premier point de ce soir, les idées sont là. Je crois qu'il y a moyen, en brainstorming, d'avoir encore des petits trucs en plus, mais fondamentalement, les idées sont là. Et ce qui a manqué à Nokia, à Sony, à tous les autres, moi je suis un homme d'entreprise, donc évidemment les exemples viendront plus de là, ce qui a manqué à toutes ces entreprises, c'est quelque chose qui n'est pas l'idée. Et maintenant, quoi? Puisque je l'ai annoncé 4 fois, on va quand même en parler. Et qu'est-ce qui a manqué? Probablement une représentation du monde qui aurait permis à toutes ces idées de passer. Et j'entre dans la deuxième partie de ce petit exposé en disant, en fait, l'expression officielle ou emblématique de mon métier, de la créativité, c'est « sortir du cadre ». En anglais, « out of the box ». Bon, et le « out of the box », ça date de ce fameux exercice de 9 points que vous connaissez. C'est 9 points qu'on doit relier par 4 traits de crayon sans lever le crayon. Et on ne peut le faire que si on sort du cadre construit par les 9 points. C'est de là que vient l'expression. Et en fait, je me suis rendu compte, et c'est certes, et ça c'est la thèse principale de ce petit livre bleu, que l'expression « sortir du cadre », c'est pas du tout la bonne expression. Ça représente en gros 10% de l'effort. La vraie, ou le vrai défi de la créativité, ce n'est pas tant sortir du cadre, mais c'est de construire un cadre. Un cadre, et voilà, la première fois je donne un mot, ou je donne un nom à ce quelque chose dont je parle depuis le début. Je crois que la créativité n'est pas l'art de sortir du cadre. C'est l'art de construire des cadres. Et maintenant, expliquons ce qu'est un cadre. Quand on dit sortir du cadre, ça veut dire quoi? Quand vous êtes banquier, on vous dit de sortir du cadre, ce n'est pas sortir de la banque. C'est sortir de la manière dont vous percevez la banque, dont vous voyez la banque, dont vous représentez la banque. Il y a beaucoup de synonymes. Et c'est valable pour une librairie, pour l'enseignement, c'est toujours la même chose. Les cadres ne sont pas dans la réalité, ils sont dans la tête. Un cadre, c'est une structure mentale qui nous permet de donner du sens, de comprendre, éventuellement de discuter, éventuellement d'inventer, mais c'est une structure mentale en nous. Et sortir du cadre, c'est quand on est libraire, c'est pas sortir de la libraire, de la librairie, c'est sortir de nous. Et donc, mon métier n'a pas là, rien à voir, ni avec une école, ni avec une librairie, ni avec une banque. Ça a à voir avec l'esprit humain. Et donc, sortir du cadre, c'est sortir de soi-même. Bon, on se comprend. C'est sortir d'une représentation du monde à une autre. Donnons un exemple. Je travaillais pour une petite entreprise de champagne qui cherchait une idée originale de marketing. Bon. Dans le champagne, le marketing est très très important et ça joue un rôle énorme. Et depuis longtemps, beaucoup de gens ont eu beaucoup d'idées, donc il y avait pas mal de déjà fait. Et j'ai voulu tester ce que je vous ai dit, et ça a donné ceci. J'ai dit aux gens, n'essayez pas d'avoir encore une idée pour le marketing, changer l'étiquette, faire une petite fleur ou le diamètre de la bouteille. Travaillons les cadres. Et je leur ai demandé, que faites-vous dans votre entreprise? Ils se sont dit, mais on fait du champagne, on vous l'a dit depuis toujours. Non, mais justement, c'est bien là le problème. C'est que vous vous regardez avec un cadre, nous faisons du champagne. Et peut-être que ce cadre-là, il est vide, il est sec, il est épuisé, il porte plus de fruits. Donc on va changer de cadre. Et je leur ai dit, demandez s'il vous plaît, expliquez-moi ce que vous faites ici, mais changez de cadre, vous comprenez pas. Alors pour taper un peu sur le clou, j'ai dit, écoutez, parlez-moi de votre métier, mais n'utilisez ni les mots champagne, et non plus pas le mot bouteille, pas le mot bouchon, pas le mot supermarché, pas le mot restaurant, pas tous ces cadres habituels. Non, décrivez-moi votre métier avec un mot ou des mots que vous n'utilisez d'habitude pas. Ils étaient assez perplexes en se disant, c'est bizarre, parce que pourquoi? Et finalement, après une demi-heure, quelqu'un a dit, bien finalement, notre métier, à nous, c'est de contribuer au succès des fêtes. Fin de la première session. Le nouveau cadre était là. C'était plus une bouteille qu'on avait en face des yeux, mais une fête. On a fait la deuxième session un peu plus tard, et on est parti, non pas de la bouteille, mais on est parti de la fête. Et j'aurais demandé, quand une fête est-elle mieux réussie? Réponse immédiate d'un participant, quand le discours est meilleur. Très bien. Il n'a pas fallu 10 secondes pour que quelqu'un dise « J'ai une super idée de marketing pour le champagne, on va faire un petit livre, comment faire un meilleur discours ?» ou « Comment préparer son discours ?» Voilà. Pour moi, c'est une expérience extraordinaire parce que ça montre que la clé, jamais, je crois, on peut arriver à l'idée du petit livre sur les discours si on se représente le métier avec des bouteilles et des bouchons et des choses pareilles, des camions. Par contre, dès le moment où j'ai sous les yeux une fête, dès le moment où j'ai sous les yeux une fête, j'ai plein d'idées pour améliorer la fête. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et c'est un peu emblématique, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Ça veut dire que, et si je fais, j'ai un fonds ingénieur en moi, si je fais le bilan énergétique de l'exercice, 10%, non, je recommence, 90% pour penser à la fête et ne plus voir la bouteille. 10% pour penser au petit livre dès le moment où j'ai la fête. C'est comme monter et descendre. Et donc, je vois maintenant, parce que ça est devenu mon cadre à moi, en disant, ben voilà, faire un petit livre pour faire les discours. Beaucoup de gens ont eu déjà des idées de ce type-là, surtout dans des environnements comme ici. Mais peut-être que moi, fabricant de champagne, si je vois le monde comme ça, je vais avoir envie de donner beaucoup de sens à une idée qui, en tant que telle, n'a rien, comme dit, ne casse pas la baraque. Et finalement, c'est ce qui se passe dans les entreprises. Et donc, je vais encore vous donner quelques exemples. Sortir du cadre, je n'utilise même plus l'expression. C'est construire des cadres. Je vais vous encore donner deux exemples. Je travaillais chez un grand distributeur, donc une compagnie de distribution d'eau. Je ne vous dirai pas le pays. Bon. Donc, des gens qui distribuent l'eau partout. J'avais fait mon expérience dans le champagne, je vais recommencer mon coup, ça marche bien. Et je dis, voilà, je voudrais que vous me décriviez votre métier, mais je vous interdis d'utiliser les mots robinet, tuyau, compteur, distribution, enfin tous ces mots-là. Quel est votre métier? Quelle est votre stratégie? Quelle est votre vision? C'était un peu perplexe. Et puis il y en a un qui a dit, ben voilà, notre métier c'est de libérer la femme dans le tiers-monde. Alors, dans un premier temps, j'ai dit, écoutez, par rapport à l'exercice, c'est 100% réussi, parce que les mots ne sont effectivement pas les mots quotidiens d'une entreprise, surtout celle-là. Mais expliquez-moi. Il dit, mais enfin, réfléchissez. Il avait un rapport de l'UNESCO qui montrait que, dans le tiers-monde aujourd'hui, des millions de femmes dépensent encore des dizaines de millions d'heures simplement à aller chercher et distribuer de l'eau. Et j'ai vu ce groupe un petit peu comme ça. Et puis un peu plus tard, il y en a un qui a rajouté, oui d'ailleurs, que beaucoup aujourd'hui d'écoles ne sont pas suffisamment équipées au point de vue sanitaire dans ces pays-là et que les petites filles ne vont plus à l'école, etc. Et d'ailleurs, plusieurs mois plus tard, j'ai lu que les talibans étaient très demandeurs de distribuer l'eau pour empêcher les femmes d'encore aller à la fontaine, puisque là, elles pouvaient discuter entre elles et comploter contre je ne sais quel régime. Et donc, forcément, c'est pas ça qui a été la stratégie de l'entreprise. Mais ils sont sortis de là en disant, ben voilà, nous on distribue de l'eau, c'est un métier, bon, pas vraiment champ de créativité, mais alors là, pour le coup, pour voir le métier autrement, bon. Troisième exemple, c'était Patrick Lelay. Et ce qui va introduire un élément supplémentaire, c'est que dans la créativité en tant que telle, il n'y a pas le bien et le mal. Il y a le neuf, le nouveau, les nouveaux, oui, les nouvelles choses, pas le bien et le mal. Et donc, on doit bien séparer la démarche de la créativité du jugement qu'on porte sur les idées reçues, ou en tout cas produites. Par exemple, Coluche, on peut aimer, on peut ne pas aimer, ça je respecte, mais on doit accepter une créativité extraordinaire. Je reviens à Patrick Lelay. Un jour, on lui a demandé, au fond, c'est quoi le métier de TF1, donc la chaîne de télévision française. Et il a répondu, c'est d'offrir à des annonceurs des cerveaux disponibles. Alors là, pour le choc, c'était pas mal aussi, puisque de dire TF1, c'est une chaîne de télévision dont le métier est d'informer le téléspectateur de manière objective sur ce qui se passe dans le monde, de le divertir de manière, si possible, un peu, etc., etc. Tout est disparu. C'est de vendre à des annonceurs des cerveaux disponibles. Et bon, je dirais, vous voyez le débat, je ne vais pas l'ouvrir, sur le jugement qu'on peut porter sur TF1, mais je crois que c'est, point de vue technique de créativité, de la part de M. Lelay, bravo. Je dois dire bravo. Ça, pour un nouveau cadre, c'est un nouveau cadre. Alors, pour le pire et le meilleur, et là j'entre pendant le débat, on voit que les idées, elles arrivent de manière, par volume entier, mais elles ne sont pas pour autant nouvelles. Parce que tout ce qui tourne autour de la pub, il y a déjà eu beaucoup d'idées, tout à coup, elles ont un cadre pour grandir. Donc voilà, sortir du cadre, oui, si on veut, un petit peu. Construire le cadre, alors là, certainement, certainement. Et donc, je dirais, le troisième moment de ce petit exposé, c'est la construction des cadres. Donc, premier moment, les idées sont là, qu'est-ce qui manque ? Deuxième moment, je crois avoir apporté un bout de réponse, ce qui manque, c'est cette représentation, et j'ai donné trois exemples, je pourrais encore donner beaucoup d'autres. Je vais en donner un quatrième, tiens. Google, pour changer un peu de genre et changer d'époque. La première idée chez Google, au départ, le premier cadre, c'était quoi ? Nous allons construire un moteur de recherche le meilleur du monde. Très bien, ils l'ont fait et ils l'ont eu. Mais si on en reste là, eh bien, à un moment, on décline. Comment se fait-il que Google a aujourd'hui la puissance, et là aussi j'enlève tout jugement, comment se fait-il ? C'est parce que les deux patrons ont lancé un mail après 8 ou 10 ans, quand ils avaient leur moteur de recherche, et ils ont dit, notre métier dorénavant, c'est de gérer l'information du monde. Alors d'un côté, ça change rien, puisqu'on a toujours le moteur de recherche, mais d'autre côté, ça change tout. Parce que le passionné de photos par satellite lance Google Earth, le passionné de bibliothèque lance la digitalisation des bibliothèques, etc. Et c'est un bon quatrième exemple. Et donc le troisième moment de ce petit exposé, c'est, dès le moment où on est d'accord que c'est construire le cadre, le défi, beaucoup plus qu'en sortir, comment fait-on ? Et là, je dirais, on revient aux mécaniques, aux principes, aux règles fondamentales de la pensée. La pensée, c'est quoi ? Parce que bon, on demande toujours, qu'est-ce que c'est penser ? Qu'est-ce qu'une idée ? Il y a des réponses simples. Il y a des réponses simples. Je crois que la pensée se travaille. C'est comme jouer. Moi, j'aime bien dire que penser, c'est jouer. Et le terrain de jeu, en fait, il y a d'un côté le monde, en face de nous, et d'autre part, nous. Nous. Et la pensée, c'est un aller-retour permanent entre nous et le monde. Alors la partie facile, c'est quand on part de nous et qu'on va au monde. On a une idée, je vais aller en vacances en Écosse, où je vais déménager. Je pars d'une idée et je vais dans la réalité. Ben, je sais comment faire. Si je vais aller en vacances en Écosse, j'achète des catalogues, j'achète des guides, et puis etc. Et je sais comment faire. C'est la partie de la pensée qui est de la plus fréquente, c'est 99% du temps, mais c'est aussi la plus facile. Je pars de l'idée et je vais aux choses, à la réalité. Je pars en vacances, je construis ma maison. C'est ce qu'on appelle la déduction. La déduction, bon, où on dit aussi hypothéco-déductif, on part d'une hypothèse et on va au monde. Et la déduction, c'est 99% du temps, mais c'est 1% de la difficulté. Et je crois peut-être qu'un jour, on ne se trompera plus en déduction. Non. Par contre, la vraie question, c'est quoi? C'est l'autre moment de la pensée. D'où viennent les idées? Donc, aller de l'idée aux choses, ça va. Bon. Mais d'où viennent les idées? Et ça, c'est l'induction. C'est l'autre partie de la pensée, 1% du temps, 99% de la difficulté, qui fait en sorte qu'en regardant un magasin, on se dit, tiens, je vais acheter ça. Ou en regardant un catalogue, tiens, je vais partir là, ou etc. C'est l'induction. Et la grande différence, c'est la déduction peut être, on peut imaginer 100% sous contrôle, si on n'est pas trop distrait. L'induction, jamais. Jamais. Parce qu'une induction parfaite prendrait un temps infiniment long. Si je veux acheter un livre et que je veux induire, je vais commencer par les regarder tous. Donc jamais j'achète de livres. L'induction parfaite prendrait un temps infiniment long. Et donc, je dois accepter une règle de la pensée, c'est qu'il n'est pas rationnel d'être 100% rationnel. Si je veux acheter une nouvelle voiture pour un peu changer de genre, je veux acheter une nouvelle voiture, qu'est-ce que c'est être rationnel? C'est d'abord être au courant de toutes les voitures qui existent. Toutes. En plus, si possible, être au courant de l'avis de tous ceux qui ont eu toutes ces voitures-là. Personne ne fait jamais ça, il n'y aurait pas une seule voiture sur la route. Peut-être la solution ultime aux embouteillages, c'est d'être rationnel, parce qu'on n'achète jamais de voiture. Ce qu'on fait pour acheter une voiture, on fait un court-circuit. Un court-circuit, un raccourci. Mais on achète celle-là parce qu'on aimait bien, parce qu'on en a une comme ça, parce qu'un copain a dit que, parce que la publicité. Mais de toute façon, ce n'est pas 100% rationnel. Et c'est comme ça qu'on construit les cadres. Une idée, qu'est-ce qu'une idée? Bon, moi j'ai écrit beaucoup de livres sur les idées, notamment avec le mot idée. On m'a toujours demandé, mais au fond, c'est quoi une idée? Alors j'ai eu beaucoup de définitions et j'ai tout le temps changé d'avis. Mais maintenant, je crois que j'en ai une avec laquelle je peux vivre et à laquelle je vais me tenir. Je crois qu'une idée, c'est une hypothèse de travail. Une hypothèse d'action. Une idée permet d'agir. Donc l'idée d'aller en Écosse, je peux aller en Écosse, ça permet d'agir. Mais c'est une hypothèse. C'est jamais une certitude. En nous, ils n'auront jamais de certitude, puisque nous induisons des idées dans un processus, et je viens de le dire, qui ne sera jamais 100% rationnel. C'est pas possible. On fait des courts-circuits, on voit pas tout, on se laisse influencer. J'ai un petit livre cousin qui est un livre vert uniquement, qui est là, uniquement sur les biais cognitifs, tous ces prismes, ces espèces de lentilles qui déforment la manière dont on voit les choses. Et donc, les cadres de pensée qui sont en nous, ils sont construits par un processus très, très, je dirais, délicat. Jamais 100% sous contrôle. Donc il faut être extrêmement prudent. Extrêmement. Parce qu'il est en nous, à quel que soit le sujet, ce ne sont jamais que des hypothèses. Alors d'un côté, si je ne passe pas l'action, il ne se passe jamais rien. Si je ne pars jamais en vacances, si un jour je n'arrête pas, je dis voilà, je vais aller en Écosse. Donc je dois geler l'idée, sinon je ne pars pas en vacances. Mais l'idée en tant que telle n'échappe pas à son statut d'hypothèse. D'hypothèse, parce que d'autres idées étaient possibles. J'aurais pu aller au Maroc, j'aurais pu aller au Venezuela. Et donc, l'induction. Et je vais en arriver là parce qu'on va un petit peu changer. L'induction, c'est le processus, c'est l'autre côté de la montagne. 1% du temps, 99% de la difficulté, parce que pas tout à fait sous contrôle. Et on voit pas tout, on oublie des choses. C'est ça, Borges, un petit livre qui s'appelle « Funès sous la mémoire ». Et l'histoire, c'est un cavalier qui tombe de son cheval, il a un gros choc sur la tête, et à partir de ce moment-là, il n'oublie plus rien. Bon, un peu plus tard, il lit un livre, un peu plus tard encore dans le livre, bon, un copain le rencontre, lui dit, tiens, tu as lu ce livre, qu'est-ce que tu en penses? Et Funès répond pas. Et le copain a dit, mais allez, tu viens de lire ce livre, dis-moi ce que tu en penses. Et Funès répond pas, et il se rend compte que parce qu'il se souvient de tout le livre, de la première à la dernière phrase, il n'est plus capable de donner un avis sur le livre. si vous allez au cinéma et si vous pouvez donner un avis sur ce film à quelqu'un, c'est parce que vous avez oublié quasi tout le film. Vous aurez retenu certains trucs. Et en plus, ce que vous aurez retenu, c'est probablement différent de ce que votre voisin ou votre voisine aura retenu, puisqu'il y a tous ces biais en tout genre. Qu'allez-vous retenir de ce que je viens de raconter? Pouf! Un ou deux petits trucs, mais ce sera probablement pas du tout en fonction de moi. C'est l'adéquation entre vous et moi. C'est tout ce que ça évoque en vous. Suivant votre métier, ce que vous êtes, vous allez retenir des choses, etc. Et donc l'induction, c'est la mécanique qui construit les cadres. Les cadres qui sont l'art de la créativité. Et cette induction, jamais ne sera 100% sous contrôle. D'ailleurs, Hume, qui est un philosophe il y a longtemps, il dit, c'est le plus grand problème de l'être humain, c'est l'induction. C'est l'induction. Il dit, d'où viennent les idées? Il dit, par exemple, on ne peut rien apprendre de l'expérience. Dit Hume, il raconte l'histoire d'une dinde. Une dinde qui est dans une petite prairie, et tous les matins, elle reçoit un peu de nourriture d'un monsieur en salopette. Mais après 100 fois ou 200 fois, que fait la dinde? Elle induit une idée, ce type est sympathique. La veille de la Noël, bon, voilà, elle a l'idée, le type est quick, on lui coupe la tête. L'induction, non. Et donc, que faut-il conclure de cette petite intervention? Mais évidemment, rien, ça c'est sûr. Ce serait un désastre de conclure. Mais bon, on va s'arrêter parce que de toute façon, on a convenu d'échanger un peu. Mais j'ai envie de dire, pour terminer, puisque je reviens au doute. Dans les entreprises, on confond souvent les mots. Et j'aime bien l'expression suivante, parce qu'elle est valable pour les patrons, mais je crois pour tout le monde. Les vrais patrons, ils n'hésitent jamais et doutent toujours. Ils n'hésitent jamais, ils doutent toujours. Et c'est valable pas que pour les patrons, ça ce sont mes biais à moi. Ils n'hésitent jamais quand on lui pose une question. Le client paye pas, qu'est-ce qu'on fait? Tu envoies un rappel. La machine est cassée, tu fais ceci. Il y a plusieurs... Tu fais ça. Ils n'hésitent jamais. Mais ils doutent toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se souvient que s'il est dans une situation où il peut ne pas hésiter, c'est parce qu'un jour, il a accepté une hypothèse. Une hypothèse, peu importe ce qu'elle soit, une tarification ou peu importe. Et c'est parce qu'il a accepté ce cadre de pensée qu'il peut ne pas hésiter. Mais un jour ou l'autre, il va devoir se poser la question du cadre lui-même, de sa tarification ou de n'importe quoi. Pourquoi? Et je termine avec ça. Probablement le problème le plus difficile de la pensée, c'est d'un côté en nous, nous sommes obligés d'arrêter de penser, sinon rien ne se passe. Si vous hésitez pour votre projet de vacances, vous partez jamais. C'est vrai pour tout. C'est vrai pour une architecture informatique, pour un bâtiment. Je dois un jour arrêter d'y penser. Quand on dit un arrêté royal, qu'est-ce que c'est? Ben c'est le roi qui arrête de penser. On lui demande, je ne sais pas moi, quelle vitesse on peut faire sur les autoroutes. Ben il réfléchit, 120, 140, etc. Mais bon, pour qu'on puisse mettre des panneaux, il faut qu'il arrête de penser. Il dit voilà, ce sera 120, ça c'est l'arrêté royal. Donc d'un côté, la pensée, pour porter des fruits, il faut ne plus y toucher. Bon. Mais d'autre part, le monde dans lequel on vit, on agit, le monde dans lequel les idées sont supposées avoir un impact, ce monde-là, il n'est pas arrêté. Et je dirais moins que jamais. Et donc un jour ou l'autre, je vais devoir avoir une nouvelle idée. Donc j'arrête de penser pour changer le monde, mais comme ce monde change énormément, un jour je vais devoir changer du côté des idées, avoir un nouveau cadre. Et comme je passe d'une réduction à l'autre, là, ce sera un choc. Et donc, on a une espèce d'obligation. Héraclite qui disait, on ne peut pas se baigner deux fois dans la même rivière, il avait tout compris. Il avait tout compris, et on est tous des enfants d'Héraclite. Et donc, dans un monde qui change en permanence, je suis obligé de m'adapter. Et il n'y a que deux modes. Ou bien je construis le nouveau cadre, ou bien je le prends dans la figure. J'appelle ça Eureka ou Caramba. Donc, c'est les deux versions. Eureka, c'est comme Apple, qui a construit le cadre quand il était encore temps. Caramba, c'est Sony, qui a reçu ou qui a vu le journal avec l'iPod et qui a pris ça comme un échec personnel. Voilà. Je serais ravi d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Bon.
Merci Luc. J'espère que nous aurons des questions dans cette assistance intéressée. Et pour toutes les questions, il faut un micro pour qu'on puisse les réentendre sur notre podcast vidéo que fera Yannick. Luc, vous avez fait peur à votre assemblée. Ils n'ont plus de questions.
Oui, ou bien il n'y a pas de questions, parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de réponses non plus. Donc, ou bien c'était très clair. Voilà.
C'était peut-être très clair. Vous avez une question, madame ?
C'est la première fois que je vous entends, c'est fabuleux. Ça m'a beaucoup plu. Enfin...
je doute.
Non, mais j'ai beaucoup aimé. Bon, peut-être que ma question, ou mon approche est totalement différente. Je m'intéresse beaucoup à l'énergie. Et en lisant des livres de gens qui ont parlé de médecine, d'approche quantique, d'énergie, on est tous énergie, on est entouré d'énergie. Les idées sont là, dans ce grand espace qui nous relie tous. Et si deux découvertes sont faites à quelques minutes ou à quelques jours l'un de l'autre, c'est parce qu'on puise aussi, on est relié à cette idée. Donc peut-être que, je ne sais pas moi, Sony était sur le point de lancer, l'autre l'a pris, ou... Enfin voilà, je voulais avoir votre avis.
Ben, je suis évidemment totalement d'accord. Disons, il y a énormément de grands exemples très célèbres. Le calcul différentiel est né chez Newton en Angleterre, chez Leibniz, à pratiquement au même moment. Alors il y a des grandes controverses qui a inventé. Je crois qu'il y a 9, 10 ou 15 personnes qui se revendiquent de l'invention de la machine à vapeur. Je crois que le théorème de Pythagore existait avant Pythagore et la courbe de Gauss existait avant Gauss. Je crois que ça c'est certainement ma conviction. Alors il y en a qui sont meilleurs en marketing. Il y en a qui sont... La lampe d'Edison... Bon, qui est aujourd'hui, quand on demande l'emblème de la créativité, en général, on dit la lampe. Donc, c'est le Eureka, la lampe. Et donc, Edison, bon, il a probablement fait quelque chose de vrai au point de vue technique, mais aussi de vrai au point de vue marketing. Parce que maintenant, on sait bien qu'il y a eu des tas d'inventeurs de la lampe avant. Mais Edison est intéressant, et c'est Bachelard qui donne l'exemple. En fait, si on résume de manière... C'est peut-être un des exemples les plus pédagogiques de cadre. Pour la lumière, quel était le cadre avant Edison ? Très simple. Si je veux éclairer, il faut que je brûle quelque chose. Depuis 2000, 3000, 5000 ans, quiconque avait éclairé, d'une manière ou d'une autre, avait brûlé quelque chose. Et qu'a fait Edison ? Il a cassé le cadre. Il a dit, mais moi j'ai une idée. Je vais éclairer en empêchant quelque chose de brûler. Et qu'est-ce que c'est une ampoule ? C'est ça. C'est le filament qui ne brûle pas parce qu'il n'y a pas d'air. Bon. Alors, a posteriori, on dit, oui, c'est pas idiot. Si on m'avait demandé, j'aurais probablement pensé aussi, etc. Mais en fait, c'est incroyable, ce genre de choses. Et donc, moi, je suis évidemment totalement d'accord avec ça. J'ai lu, pour écrire ceci, la vie de Louis Braille. Bon, voilà une idée. J'ai essayé de traiter des idées, pas la lampe à pétrole, la machine à vapeur. Justement, on peut sortir de mes cadres à moi. Donc, je parle, par exemple, de la couleur mauve, comment elle est née, etc. Mais Louis Braille, c'est un très bel exemple. Un petit garçon de 7 ans, qui vit quelque part à Paris, son papa est forgeron. Un jour, il prend un éclat dans l'œil, il devient aveugle à 7 ans, je crois. Et donc, qu'est-ce que l'écriture braille ? C'est l'histoire de ce garçon, de ce petit garçon. Moi, je crois que si j'ai appris quelque chose dans le monde de la créativité, c'est parce que j'ai lu des biographies. J'en ai lu, je crois, 200. Et je continue. Je lis pour l'instant la vie de Benjamin Franklin. De nouveau, lui, le paratonnerre, etc. Je ferme cette parenthèse-là. Braille. Petit garçon de 7 ans. Comment ? C'est pas lui qui a eu l'idée de faire des trous dans une feuille de papier. L'idée était là. Elle était là. Elle était utilisée par les militaires qui voulaient lire des cartes la nuit, etc. Et ce qu'il a fait, il a mis ensemble une idée existante avec son problème à lui. Et cette histoire est incroyable parce que le problème le plus grand qu'il a eu pour développer son écriture, vous savez ce que c'est ? C'est un discours. Donc, il avait besoin de budget, de crédit. Et dans un premier temps à l'Assemblée française, ça a été refusé. Motif, les voyants ne savent pas lire. Et c'est vrai que nous ne savons pas lire l'écriture braille. Bon, c'est quand même fort. Il a fallu Lamartine, qui dans un discours assez extraordinaire, a dit aux gens, mais ça va pas, non ? C'est pas nous le problème, c'est eux, et finalement, ça s'est débloqué. Et donc... Qui a inventé le braille ? Mais on ne sait pas répondre. On ne sait pas répondre. Des gens avaient mis des trous dans des feuilles pour permettre à des militaires, etc. Donc, les idées nous appartiennent, les idées sont là, on ne sait pas très bien d'où elles viennent, et finalement, ça n'a pas de problème. Ce n'est pas ça l'essentiel. Ce qui manque, c'est le quelque chose. C'est ce que je disais au début. Dans l'occurrence de Braille, c'est, donc, disons, de ce nouveau cadre. Alors, pour aller un peu plus loin, dans les nouveaux cadres, il y en a en gros de deux types. Il y a le type, je dirais, simple, c'est le petit livre pour faire les discours. Il y a des choses un petit peu plus compliquées, c'est quand on met ensemble. C'est l'exemple de Louis Braille. C'est vrai que, par exemple, depuis longtemps, il y avait des planches, depuis longtemps, il y avait des voiles, et un jour, quelqu'un s'est dit, je vais faire une planche à voile. Bon. Où est l'idée? Et finalement, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Moi, je suis très convaincu, après autant d'années, que les idées sont là, que la pire question qui me soit arrivée, c'est quand, dans un brainstorming, quelqu'un a une idée, on me demande qui est propriétaire. Alors, on pourrait dire c'est lui, parce qu'il vient de le dire. Mais évidemment que ce n'est pas lui. Parce que s'il l'a dit, c'est parce qu'une réaction en chaîne. Et ça nous appartient. Et c'est pour ça que j'ai une approche très, je dirais, en tout cas non marchande de ce monde-là. Ça nous appartient. Montaigne disait, personne ne devrait jamais dire mon livre. On devrait toujours dire notre livre. C'est tellement vrai. Eh bien, j'ai envie de dire, personne ne devrait jamais dire mon idée. On devrait toujours dire notre idée. Ça compliquerait un peu certaines relations commerciales. Mais voilà, donc... En tout cas, c'est aujourd'hui ce que je pense. Et que les cadres, on les construit comme des filtres. On a une certaine maîtrise, mais on ne fait jamais que donner une chance à une idée qu'on n'a pas inventée soi-même. Y compris pour Edison. Vous savez, j'ai tout lu, le téléphone, les machins à peu. Mais il y a des dizaines de gens qui disent qu'ils ont inventé le téléphone. Mais il y en a un qui a été probablement un peu plus marketing que les autres. C'est dur, quand même.